Bonsoir. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu quelle a été ma démarche sur le travail qui est présenté ici à la Maison populaire de Montreuil. Et puis, avec un peu de chance, j'arriverai à vous expliquer les techniques, la technicité de ce travail. Donc, d'abord, il y a un titre qui s'appelle Ombre de chimère, et en ce titre, l'œuvre est conçue. Ouais. Donc pourquoi la chimère? Il faut commencer par là pour comprendre la démarche qui a été la mienne. C'est que on ne peut pas imaginer ou penser la chimère sans penser Pégase. Et on ne peut pas imaginer ou penser Pégase sans revenir à la provenance de Pégase, qui est la Gorgone, l'une des trois méduses. En fait, à Méduse, l'une des trois Gorgones. Donc, ces trois Gorgones sont positionnées dans la mythologie grecque. À l'entrée des enfers, c'est le pendant de Cerbère. Cerbère, lui, est à l'intérieur des enfers. Il empêche les morts de sortir des enfers. Tandis que les Gorgones empêchent les vivants de rentrer dans l'enfer. Car seuls les dieux ont le droit de pénétrer dans le royaume des morts. Cette Gorgone, enfin ces trois Gorgones, dont Méduse, sont les filles de Sthéno et Euryalé, qui sont deux divinités marines dont je vais passer l'histoire parce que c'est là pour 3 heures, mais qui proviennent d'un viol de Poséidon sur des nymphes. Bon, voilà. Et elles ont comme caractéristique d'être affreuses, hideuses. Elles ont des cheveux en forme de serpent, des ailes d'or, des doigts griffus. Bon, bref, elles sont monstrueuses. Et surtout, lorsqu'on les regarde, on est pétrifié. En fait, plus exactement, lorsqu'on croise leur regard, on est immédiatement pétrifié. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant. C'est la notion du regard qui est décryptée, la notion de ce qu'on le regarde exactement, qui est décryptée par cette séquence mythologique. Donc vous la connaissez, je suppose, c'est Persée qui, à un moment donné, dans ses nombreux exploits, doit aller couper la tête de la Gorgone, enfin des Gorgones, et notamment celle de Méduse, qui est la plus connue, la plus... Enfin surtout, elle est immortelle. Elle est mortelle, pardon. Tandis que les deux autres sont immortelles. Donc on lui demande d'aller couper cette tête pour des raisons, blablabla, souvent sexuelles. Et lui, il y va. En chemin, il croise Athéna, qui est toujours là pour aider les héros grecs. Et elle lui file un bouclier d'airain qui va permettre à Persée d'accomplir son exploit. Je vais y arriver. Donc vous le voilà sur son petit chemin, et le problème c'est qu'on ne sait pas où se situent ces trois Gorgones. C'est un endroit caché. Pour le rencontrer, pour le trouver, on doit d'abord découvrir les trois Grées, qui sont les trois sœurs, le pendant. Donc voilà. Ces trois Grées n'ont qu'une dent et qu'un œil. Et Persée, par un subterfuge intellectuel, arrive à leur voler leur œil et leurs trois dents. Et balance les trois dents et l'œil dans un fleuve qui va donner naissance à d'autres personnages mythologiques plus tard. Je vais essayer assez vite. Parce que je vous le dis, ça peut tenir au moins 3 heures, ça. Et puis finalement, il est assez démuni puisque ces trois grès lui donnent le chemin, la carte pour accéder à cette porte de l'enfer, mais sauf qu'il faut traverser des océans, des continents, et comment faire. Donc là, il y a Hermès, le messager, c'est très important, qui fait un lien entre les dieux, la cosmogonie, et les hommes. Il est descendant. Et donc Hermès descend et lui file ses pompes ailées. Et grâce aux chaussures ailées de Hermès, notre brave Persée arrive enfin à cet endroit caché, secret, qui est la porte d'entrée des enfers. Et grâce au bouclier d'airain prêté par Athéna, qu'il bien évidemment, l'a tenu en garde sur le fait que si il regarde Méduse dans les yeux, il sera pétrifié. Il use du bouclier comme un miroir pour regarder où est Méduse. Donc il ne regarde pas exactement Méduse directement dans les yeux, et il s'approche d'elle, et paf, il lui coupe la tête. De là naît Pégase. Et Chrysaodor, qui est un autre monstre absolument abscon, dont on entend très peu parler ensuite dans les récits mythologiques. Là, ce qui est intéressant, c'est que Pégase sort du cou de cette méduse. Donc le sang, Pégase, le cheval ailé, enfin vous voyez un petit peu l'image, c'est quand même assez magnifique. Et ce qu'on regarde aujourd'hui par rapport à Pégase, il y a trois interprétations majeures. La première, c'est que c'est l'objet de la technologie, c'est le cheval ailé. Donc grâce à Pégase, si jamais on le chevauche, on peut traverser les airs, la technologie. C'est aussi le lien ascendant, c'est-à-dire que Pégase, immédiatement à sa naissance, va directement voir Zeus, et il fait partie de l'écurie de Zeus. Donc il provient des vivants pour aller vers les dieux. Et la troisième interprétation la plus complexe, c'est qu'il pourrait être le début du poénème, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la poésie, le langage des vivants vers les dieux. Vous savez que la poésie provient au départ d'une comptabilité, c'est les mythes pythagoriciens, où en fait, pour donner au roi enfin, des Grecs anciens, on est dans l'époque mycénienne, 4000 ans avant Jésus-Christ, en gros, il y avait des gens qui venaient régulièrement dire auprès des rois l'ensemble de leur dépendance. Et ils le répétaient tous les jours. Tu as 15 brebis, 8 vaches, 5 soldats, 3 chevaux, blablabla. Et puis comme ça changeait tous les jours, il fallait le répéter. Il n'y avait pas l'écriture, donc on répétait inlassablement. Et de là vient cette idée du poénème, ça veut dire à la répétition, qu'ont repris les pythagoriciens un peu plus tard, et qui est en fait la naissance de la poésie. La poésie, pour les Grecs, c'est répéter. Répéter et mourir. D'ailleurs, c'est relié, je continue là-dessus, c'est relié à la scatologie, c'est-à-dire rejoindre le commencement à la fin. Et chez les pythagoriciens, ils disaient que l'homme ne sera jamais homme puisqu'il ne sait pas relier le commencement à la fin. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc on retrouve Pégase, et du coup Bellérophon. Bellérophon qui est un autre héros, qui est le pendant de Persée. Et qui lui, à un moment donné, comme Persée, est envoyé pour souvent des histoires sexuelles et de pouvoir, et il est envoyé pour tuer Chimère. Donc Chimère, qu'est-ce que c'est? C'est un monstre qui traîne en Libye, c'est assez intéressant par rapport à l'actualité actuelle, et qui détruit tout sur son passage, et surtout empêche un certain nombre de passages commerciaux. Et donc il faut absolument tuer cette chimère. Donc elle, de manière générale, elle est représentée avec un corps de lion, une gueule de serpent, plus ou moins, ou une queue de serpent, ou trois têtes. Enfin bon, c'est assez flou. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que souvent elle est surmontée d'une tête de chèvre. D'où son nom Chiméra. Chiméra, c'est la chèvre. Et elle crache du feu. Quelles que soient les descriptions de cet animal maléfique, ils sont tous d'accord sur un truc, c'est qu'elle crache du feu. Donc, Bellérophon va tuer la chimère à pied, voilà, avec son épée, là, 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 là. Et il croise Athéna, comme Persée l'a croisé auparavant pour aller tuer Méduse. Et Athéna lui dit, mais là, ça va pas être possible. Elle crache du feu, tu vas jamais y arriver, elle est quasiment immortelle, comment vas-tu faire avec ton épée là? Et donc, elle appelle Pégase, qui descend de chez Zeus. Et elle lui dit, par contre, si tu chevauches Pégase, au moins tu ne seras pas touché par le feu qu'elle produit. Et puis, je te file un arc et des flèches plombées. Et la seule manière de tuer cet animal maléfique, c'est de barder de flèches sa gueule en feu, et le plomb va fondre, et donc cet animal va mourir étouffé. Et donc Bellérophon s'exécute, et il il barre de flèches cette chimère, et effectivement, elle meurt. Voilà, c'est fini. Donc là, qu'est-ce que ça raconte, cette histoire-là? C'est là où ça devient assez foudroyant. Donc il y a quelqu'un qui, comme Jean-Pierre Vernant, qui en a beaucoup parlé, et notamment avec Claire Parnet, dans un bouquin qui s'appelle de mémoire « L'œil tue » ou « Le regard qui tue » ou un truc comme ça, je ne l'ai plus en tête. C'est cet aller-retour, enfin cette triangulation, n'est-ce pas, entre cette méduse, la chimère et Pégase. Donc on comprend bien que Pégase est un animal fantastique qui a comme fonction l'ascendance. C'est-à-dire que à un moment donné, par le messager que peut être Pégase vers les dieux, les hommes ont accès aux dieux. Donc ils accèdent à la divinité. Il faut comprendre que chez les Grecs, l'expression de la divinité n'a absolument rien à voir avec l'expression catholique qu'on pourrait avoir aux musulmanes, aux bouddhistes. Ce n'est pas de l'ordre de la religion. D'ailleurs, il n'y a pas de religion grecque à proprement parler dans l'espace mythologique. On est plutôt sur des croyances qui évoluent au fur et à mesure des sociétés. Et ces croyances sont là pour réguler des problèmes sociétaux plutôt qu'autre chose. En gros, on pourrait dire que la mythologie grecque permet aux Grecs d'expliquer l'inexplicable. Et il y a cette méduse qui porte bien son nom, qui a été aujourd'hui intégrée dans le vocabulaire français. Être médusé, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire d'être médusé? Ça provient du fascinus, fascinus romain, l'expression la plus essentielle de la sexualité, c'est-à-dire le sexe qui bande, qui est le phénéi de chez les Grecs, c'est la même continuité, qui est exactement la même chose, c'est le sexe qui bande, et c'est la fascination éprouvée par n'importe qui, tout être humain, homme comme femme, devant cette expression de la virilité masculine. Mais qui est aussi autre chose, qui est l'érotisme qu'il y a là derrière, c'est pour ça que j'avais montré cette première image tout à l'heure que j'ai perdue, donc vous ne la verrez plus, mais c'est pas grave, il y a cette idée de l'érotisme là derrière. Et qu'est-ce que fait Méduse? C'est qu'elle pétrifie celui qui ose ou qui par hasard croise son regard. Mais c'est pas un pouvoir magique, loin de là, on n'est pas dans un conte pour enfants. On est face à un individu qui regarde un gardien, qui est le gardien de l'entrée du royaume des morts. Et donc, le fait de regarder Méduse, c'est se voir soi-même pénétré dans le royaume des morts. Donc, on en devient image. On est pétrifié parce que l'on regarde son double pénétré dans le royaume des morts. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, on est presque dans l'invention du cinématographe, quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on capte une image, et ce qui devient image n'appartient plus au vivant. Il appartient au réel, mais il appartient plus au vivant. Et ça, les Grecs nous en parlent avec Méduse. On peut en discuter après pendant des heures si vous voulez, mais en tout cas, moi je pense que c'est vraiment un endroit, une séquence mythologique grecque qui nous avertit sur ce qu'est l'image. Qu'est-ce que être image? C'est perdre la réalité, enfin c'est perdre l'instant du vécu pour devenir une réalité autre qui s'exprime en tant qu'image. Il faut se souvenir que pour les Grecs, le vivant ne peut pas rentrer et ne peut pas pénétrer dans le royaume des morts. Seuls les dieux ont le droit d'y pénétrer. Et avec ce véhicule qui est Pégase, on en arrive à Chimère. Et là, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un des rares animaux mythologiques dont les prescripteurs ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que chez Hésiode, on est sur le corps de lion, la tête de chèvre, lin. Et puis chez Apollodore, c'est trois têtes comme un dragon, lin. Et puis chez un autre, c'est autre chose. Et dans la Théogonie, c'est autre chose. Enfin bon, voilà. Il n'est jamais décrit pareil, cet animal. Donc on pourrait imaginer, ou on pourrait penser, que cet animal, la chimère, pourrait représenter exactement l'impossibilité de la représentation. Donc on est sur une bascule entre Méduse, qui est, je le rappelle, la gardienne de l'entrée du royaume des morts et qui en même temps produit une image à partir du moment où on croise son regard, donc qui fige quelque chose, et qui est reliée immédiatement, grâce à Pégase, le cheval ailé, et, je le rappelle, à la poésie, à quelque chose qui ne peut pas être représenté. On m'applaudit, merci, c'est gentil. Et ça, ça a été la base de ma réflexion et de mon travail. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'y ai passé beaucoup de temps, voyez-vous. Et j'ai réfléchi à ce qui peut produire encore peut-être, probablement, une image aujourd'hui. Et au statut qui est le mien d'artiste, c'est-à-dire quel est mon droit aujourd'hui, ou autrement dit, quelle serait la prétention que je pourrais avoir de produire de l'image, de rajouter de l'image à l'image. Alors, un artiste, c'est quoi? À part quelqu'un de complètement obsessionnel, je sais bien de quoi je parle, mais c'est aussi quelqu'un qui a une pratique, donc qui a une technicité. Et là, mon intérêt dans le travail que j'ai mené, ça a été de détruire toute pratique de mon travail, de revenir complètement en arrière. Donc, j'ai fabriqué des images qui existent, je suis parti d'instant du réel. Et comme dans cette idée de Méduse, j'ai travaillé sur des filtres pour venir pétrifier cette image. Et puis ensuite, par effet de mise en scène, de la mettre en mouvement dans l'installation que vous voyez là-bas derrière. Donc le travail, ça a été de rechercher des images de presse, de repérer quel était l'élément le plus constituant de cette image, en dehors de l'œil qui l'a prise, du photographe qui a pris la photo. Et il apparaît très clairement que lorsque on observe en détail une image de presse, on est dans la pixelisation. Donc ça, les petits points que vous voyez ici, là, ce sont les couleurs primaires qui sont mélangées ensemble et qui vont créer une image. Donc là, je suis sur des détails de macro. De la même manière, d'ailleurs, qu'une image télévisuelle. Et tout doucement, on voit... Donc là, c'est la même image qui est travaillée en macro. C'est-à-dire, c'est une image comme ça que j'ai travaillée. Et on voit tout doucement apparaître des formes humaines. À un moment donné, ça va arriver. Voilà. On y est presque. Là, il y a des tissus, ici. Bon, je vais chercher plus loin parce que j'ai copié-collé les trucs sans vraiment trop regarder. Voilà, là par exemple. Donc ce que vous venez de voir, ce ne sont que des étapes macrotiques de cette image où là on reconnaît des formes humaines très clairement. Et en fait c'est une image de migrants avec derrière des bâtiments qui sont en train de tomber en Syrie. Ça c'est un petit enfant. Et donc là, on se recule de plus en plus. D'accord ? Donc, l'idée, c'était vraiment d'aller chercher ce qui constitue l'image contemporaine qu'on regarde aujourd'hui dans son signal, en fait. De la même manière que, lorsqu'on réfléchit à un regard, qu'est-ce que c'est qu'un regard ? Qu'est-ce qui nous permet de penser que nous voyons une image, ne serait-ce pas l'image qui nous fabrique, par exemple ? C'est-à-dire inverser le processus. Et d'ailleurs, ce que nous raconte cette idée de la chimère, c'est exactement ça. Ce n'est pas nous qui voyons l'image, c'est l'image qui nous fabrique. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde une œuvre d'art, à partir du moment où elle a pris ce statut d'œuvre d'art, ne serait-il pas plus intéressant de penser que c'est bien cette image qui nous regarde en tant qu'œuvre d'art, plutôt que nous qui regardons cette image et qui l'interprétons selon notre culture, etc. Tout ça, pour moi, à un moment donné, ça a disparu. Je me suis dit... Mais en fait, je ne regarde pas des images, ce sont bien des images qui me regardent. Elles m'obsèdent, elles me fascinent. De la même manière que là, je vous parle aujourd'hui, je suis en représentation. C'est moi que vous écoutez, et rien d'autre. Donc ce statut de représentation, porte en soi le regard de l'image. C'est en ça qu'une image peut devenir l'ombre du regard qu'on porte sur elle. C'est pour ça que le projet s'appelle l'ombre de chimère. Je continue, je vais m'expliquer. Donc ensuite, c'était des choses pas comme ça, mais plutôt comme ça. Voilà, ben, enfin, voilà. Ah, la technique, hein. C'est casse-pied. Donc là, on est en... On est où? Où sommes-nous? Non. On pourrait y être. Non, mais je vous pose la question. Où sommes-nous? Ah! Eh bien non, en fait, là, nous sommes à Berlin. Et là, où sommes-nous? Là, nous sommes en Syrie. Et là? Ah, là, c'est pas ça. Donc ça, c'est Alep. Donc ça, c'est Alep aujourd'hui. Donc la Syrie, cette guerre qui est née d'une révolution, huit ans de conflit, beaucoup plus que 39-45 par exemple. Je ne sais pas si vous imaginez l'impact que va avoir ce conflit sur ce pays et sur le monde arabe en général. Huit ans de conflit non-stop, des tapis de bombes, et voilà ce qui reste. Une ville détruite, il n'y a plus d'hommes là-dedans, manifestement. Je crois que c'est 6 millions de réfugiés. Je crois qu'on est à plus de 300 000 morts. C'est quand même pas mal. On y va, quoi. Et là, ma question, puisque pour finaliser la boucle, parce que vous allez me dire pourquoi il me parle de mythologie, puisque vraiment il arrive à la guerre, c'est que il est évident que les espaces de réflexion mythologique, ou en tout cas de projection, dans ce qu'on appelle la mythologie, notamment et spécifiquement chez les Grecs, proviennent de conflits. Quand on regarde l'histoire de l'évolution grecque à partir de l'époque mycénienne jusqu'à Athènes, ce ne sont que des conflits. On part déjà au départ d'un conflit très clair entre pêcheurs, montagnards et gens de la plaine, puis ces gens-là, finalement, par les conflits, et c'est là où c'est étonnant, et c'est une leçon d'ailleurs de la démocratie qu'on pourrait peut-être par la suite discuter, ces gens-là par la suite se réunissent, parce qu'ils se rendent bien compte qu'à force de se mettre sur la tronche, peut-être que ce sera plus simple de se réunir, et on a la constitution des premières cités. Sparte, Athènes, et ainsi de suite. On parle, bien évidemment, d'avant l'époque d'Alexandre, et des gens de la Macédoine qui viennent raser, en fait, tout ça. Et ça aussi, c'est assez intéressant, d'ailleurs, puisque quand Alexandre le Grand fond sur la Grèce pour plus ou moins résoudre des conflits entre Sparte et Athènes et d'autres, mais en fait surtout pour prendre le pouvoir, parce que ça intéresse, parce qu'il y a des bons guerriers qui sont là et qui pourra étendre son propre pouvoir sur d'autres choses. Et ça, certains auteurs romains en parlent de manière très précise, soudainement, il devient le Basileus, la basilique, la parole de Dieu sur terre. Soudainement, on passe d'une cosmogonie d'environ presque 350 dieux à 8 ou 9, je crois, ou 6, je ne sais plus, 9. C'est complètement dingue, une réduction en moins de 20 ans. Qui annonce, 200 ans plus tard, la chrétienté chez les Romains. Après, on peut croire en Dieu et à Jésus, peut-être, mais en tout cas, politiquement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ça, c'est extrêmement intéressant aussi à observer, c'est-à-dire que, soudainement, la multiplication des conflits pouvant être, à un moment donné, une résolution de problématique sociétale devient une fin en soi. C'est-à-dire que on pourrait presque penser que ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, se référant à ce qu'a été la démocratie chez les Grecs, ne fonctionne que par rapport au conflit. Et d'ailleurs, si on regarde précisément l'histoire de l'Europe après 39-45, on remarquera immédiatement que l'idée européenne a d'abord été celle d'évacuer les conflits de ce continent. Et d'ailleurs, on remarquera que depuis, l'Europe est entourée de conflits. Russes, ukrainiens, arabes. Donc forcément, par rapport à cette dynamique mythologique, je me suis intéressé au conflit. Donc je reviens sur le process de travail. Moi, je suis parti de ça. J'ai rencontré par hasard un journaliste qui s'appelle Rémi Ourdan, un grand journaliste reporter au Monde, qui couvre les conflits et qui a beaucoup couvert notamment Mossoul, donc le conflit irakien, qui n'est d'ailleurs que, c'est une continuité. On ne peut pas parler du conflit syrien sans parler du conflit irakien et sans parler du conflit libyen et l'intervention dernièrement de l'Arabie saoudite, etc. Enfin, vous voyez un petit peu ce qui est en train de se passer, l'Iran, blablabla. Et à un moment donné, dans nos discussions, alors il m'expliquait, lui, ce qu'il voyait, les forces spéciales, les Français, l'implication des Américains, des Anglais, blablabla. Et puis finalement, des morts, des cadavres, du sang qui coule, bref, le quotidien d'une guerre, c'est-à-dire du sang et des larmes. Et je lui posais la question de savoir, mais comment les enfants, après 8 ans de conflit, par exemple, en Syrie, pourront-ils sortir de cette histoire-là? Qu'est-ce qui leur arrive? Et là, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui m'a immédiatement renvoyé à ces espèces mythologiques dont je parle parce que je m'y intéresse depuis que je suis enfant. Et donc, pour moi, la mythologie, ça fait partie de mon enfance. C'est que les enfants continuent à jouer malgré la barbarie. Pour certains, ils ne jouent plus, et là, c'est fini. Mais pour la plupart, ils continuent à jouer, malgré la barbarie. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant. Et donc, je me suis dit, mais peut-être se passe-t-il dans cet endroit de guerre et d'horreur qu'est la Syrie ou l'Irak, peut-être se passe-t-il de nouveaux espaces qui pourraient produire quelque chose qui pourrait être apparenté à un nouvel espace mythologique. Je pense pouvoir imaginer aujourd'hui que probablement ce qui se passe là-bas, d'ici quelques années, ça créera de nouvelles pensées et surtout de nouvelles images, de nouvelles projections mentales qui pourraient être un espace mythologique, qui ne nous appartient pas. Je ne suis pas syrien, je ne suis pas irakien, mais j'y suis attentif. Et donc, de fait, je suis arrivé à cette histoire d'ombre. Pourquoi ? Parce que j'ai souvenir, quand j'étais enfant, de choses qui m'ont vraiment marqué, et surtout qui m'ont emballé, c'était les petites lampes qu'on mettait sur le côté avec une bougie et qui tournaient. Et puis voilà, et j'avais 4 ans et j'en regardais ça, je faisais « Ah, super dodo !» Boum. Mais c'était ça. La question que je me suis posée, c'est pourquoi as-tu été fasciné lorsque tu avais 3, 4, 5 ans de ces espèces de loupiottes qui tournent là et qui n'ont absolument aucun intérêt. Aujourd'hui, je balance ça à la poubelle, je m'en fous. Eh bien non. La question, c'était, au-delà de pourquoi es-tu fasciné, c'est comment vas-tu retrouver ces instincts ou en tout cas ces moments d'enfance qui t'ont fait, qui t'ont fabriqué en tant qu'imaginaire et en tant que penseur ou en tant qu'individu. Et donc j'ai fait un parallèle entre une descente en moi de retourner sur des souvenirs d'enfance qui ont traversé différentes couches, l'éducation, les parents, la chute de vélo, le premier pétard, la première ligne de coke, blablabla. Et puis descendant, le goût du chocolat, le premier café, la première tarte que je me suis pris par mon père. Voilà. Quelles ont été mes réactions à différents endroits de mon vécu sur une violence? Manger un morceau de chocolat quand on est enfant, quand on ne connaît pas, c'est une violence. On ingère quelque chose qu'on ne connaît pas, ça a le goût de cacao, c'est terrible, c'est amer, et en même temps, on s'y fait, on devient fasciné, on devient obsédé par le chocolat. De la même manière que si j'avais été un enfant qui avait été battu toute ma vie, je ne comprendrais pas pourquoi il n'y a pas d'actes de violence autour de moi, tous les psychologues en parlent. Donc c'était cette descente qui m'a permis, à un moment donné, de me retrouver peut-être à distance, au même endroit qu'un enfant libyen, syrien ou irakien. Ce qui explique, dans mon travail, ces formes très naïves, ce dessin très bête, très simple, simplifié, de serpents autour d'hommes armés, de femmes handicap entourées de ronces, des projections mentales de l'enfance qui sont remontées en fait. Je continue. Faut que je retrouve ma souris. Elle est là. Et après, ça vient de ça quand même, hein, par exemple. Donc ça, c'est la femme et le philosophe. Ou ça vient aussi de ça. Elle n'est pas dans le bon sens, la toile, mais on s'en fout. Ou sinon, de ça, de la croix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à travers l'extrême perception de l'horreur, moi, j'y ai découvert un érotisme. Et qu'est-ce que c'est que l'érotisme, si ce n'est que de découvrir des formes sans vraiment les voir? Si ce n'est que d'imaginer des choses sans vraiment les comprendre? Si ce n'est d'atteindre les sexualités sans jamais peut-être avoir une vraie sexualité? C'est le cheminement vers la sexualité, l'érotisme. Et c'est un lien entre la difficulté d'être, l'horreur et la subtilité, la volupté. Donc ça a conduit ce travail, et ce qui a fait que j'ai percé des feuilles de papier, que je suis arrivé à des découpes de moins d'un millimètre pour redécouvrir des formes, de la même manière qu'un paravent, on regarde quelqu'un derrière un paravent se déshabiller, et on trouve ça franchement plus chouette que de voir des boulets à poil directement dans la chambre. Après 5 ans, 6 ans, 10 ans de couple, la nana à poil tous les jours, au secours quoi. Par contre, soudainement, à la plage, ah waouh, juste une épaule, au secours, je la redécouvre. Ben, c'est ça. Et c'est cette violence-là de l'image qui nous revient comme quelque chose qu'on a déjà vu, qu'on a déjà observé, qui est inscrit dans notre inconscient, qui provoque notre regard. Donc c'est pour ça que je reviens, et pour boucler, nous ne regardons pas les images, c'est bien l'image qui nous regarde. Et je crois que la définition occidentale contemporaine de l'image n'a rien à voir avec ce qu'est l'image. L'image, c'est quelque chose qui porte une signification. Et en ce qu'elle porte une signification, au-delà du regard qu'on lui porte, elle nous amène vers quelque chose. Et parce qu'elle nous amène à quelque chose, elle est conductrice. Et parce qu'elle est conductrice, elle nous regarde. C'est-à-dire que c'est exactement le principe du regard. Pendant très longtemps, jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, on croyait que le regard, c'était un regard lumineux. L'homme voyait, mais l'homme ne voit pas. Ce sont des rayons lumineux qui tapent des objets, et ce principe physique nous fait percevoir les choses. C'est-à-dire que si maintenant on fait le noir dans cette salle, plus personne ne se voit. On disparaît à l'autre. Donc c'est bien la lumière qui provoque le regard. Ce n'est pas le regard. Le regard n'est là que comme un outil optique, physique, pur. Il n'a absolument aucune intention. Il n'existe pas en dehors de l'objet optique qu'il est. Et voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on croit regarder quelque chose, en même temps, cette chose-là nous regarde. Et peut-être serait-il intéressant de se poser la question de savoir pourquoi cette chose nous regarde plutôt que nous la regardons, comme dirait Deleuze. Et moi, c'est vraiment cette dynamique-là qui m'a intéressé. Et à partir de là, on peut montrer toutes les horreurs du monde, puisque les horreurs du monde sont le monde. Elles ne sont pas la traduction d'un artiste. C'est le monde qui s'exprime, peut-être à travers l'artiste, mais c'est le monde qui s'exprime. Je suis monde, et en ce sens, je peux me permettre de. Sinon, je me tais. Voilà. En gros, je vous ai expliqué ce que j'ai travaillé. 20h58, 1h, c'est fini. Donc voilà, moi je suis prêt aux questions-réponses. Objectif Mossoul. Donc ça, c'est Rémi qui a écrit cet article. Ça, c'est Paris Match. Ça aussi. Ça, c'est Alep. Début, milieu, fin. Je suis prêt à toutes les questions. J'ai pas été trop abscon. Je sais que des fois, je suis un peu abscon.
C'était dense.
Pardon ?
C'était dense.
Oui, bah j'ai regardé le chrono. Hein. Je me suis dit 45 minutes, il faut que je pile à faire, sinon on va y passer la soirée.
Alors, l'image me regarde, mais j'ai toujours pas vraiment bien compris.
Bah, c'est exactement l'atelier qu'on a eu, par exemple, aujourd'hui. À un moment donné, je mets un petit train sur un plateau, un train électrique. Et sur ce train, je positionne quelques lampes. Et en face de ce train, donc là, il y a un circuit, quoi, comme ça. Et en face, on met des objets. Et puis là, il y a un écran. Donc inversé, là, il y a l'écran. Là, il y a des objets. Et là, il y a le train. D'accord ? Qui tourne comme ça. Et on positionne quelques lumières. Quand ces lumières bougent, on voit les ombres qui apparaissent, qui disparaissent. Donc c'est le principe d'une lampe, hein. J'en ai pas sur moi, mais plus on va avancer la lampe d'un objet, plus l'ombre va grandir, et puis on va le reculer, et plus l'ombre va rapetissir. Voilà, et là, c'est sur un mouvement circulaire, donc ça complexifie un petit peu ce phénomène. De la même manière que le soleil passe, et puis on a l'ombre de l'arbre, et puis à midi, il n'y a plus d'ombre, et puis à 17h, il y a l'ombre de l'autre côté. Bon. Si on imagine juste un instant que cette lumière, c'est une caméra, c'est l'œil. La caméra, c'est n'est juste que bêtement un œil. Et qu'on la met en mouvement, cette caméra, à la différence d'une caméra qui, elle, va restituer une image par après, sur un écran, là, on la restitue immédiatement. C'est bien l'image qui nous regarde. C'est-à-dire que c'est plus moi qui regarde l'image, elle est dans une dynamique de mouvement, en ce qu'elle produit une image. Cette production d'image s'adresse au regard. Je ferme les yeux, je ne vois plus l'image. C'est bien l'image qui conduit le regard. Exactement, bien sûr. Je veux dire, n'importe quelle composition, on prend un Botticelli. Botticelli. Alors, Botticelli. C'est de la composition, c'est une diagonale qui va nous porter le regard de droite à gauche, etc. C'est bien l'image qui conduit le regard. Nous, on est là. Regardez quand vous vous baladez dans la ville. Qu'est-ce qui accroche votre regard? Est-ce que c'est votre pensée qui va accrocher votre regard? Ou est-ce que ce sont des événements qui vont accrocher votre regard? Un tramway qui passe, une jolie fille avec un joli popotin, ou un joli garçon avec des belles lunettes. Je parle pas pour moi. Qu'est-ce qui accroche le regard? Par exemple, il y a un travail qui a été mené par Jung, et qui s'appelle, je ne sais plus comment, je vais aller le chercher. Où il dit que, en fait, c'est une psychanalyste brésilienne qui, à un moment donné, on est dans les années 20, je crois, un truc comme ça. Jung, c'est 20, je sais plus. C'est ça, hein, non? En gros, quoi. Et donc, en Europe, on est déjà en train de réfléchir toute la psych... Enfin, on est en train de basculer sur la psychanalyse, et notamment sur le traitement des maladies mentales, qu'on considère encore comme étant des erreurs, la judéo-chrétienté, pas être dans les rangs, etc., c'est une catastrophe. Donc on enferme les gens, on les soigne pas, on les enferme. Et il y a grâce à Freud, hein, quand même. Même si, bon, on peut beaucoup parler de Freud. On se rend compte que peut-être qu'à travers ces expressions, jusqu'à ce moment-là, considérées comme étant dérivantes par rapport à la société, peut-être qu'on peut apprendre. Et ça, Jung, c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment donné, il se dit, mais on peut apprendre de ces personnes qui sont considérées comme étant à la dérive, ou différentes, ou plus loin, divergentes, voire. Et à un moment donné, il tombe sur cette psychiatre brésilienne, ou de l'autre côté, là-bas au Brésil, là, c'est l'enfermement. Je veux dire, quand on est fou, c'est même pas la peine. C'est voilà, c'est lobotomie directe, on n'en parle plus. Sauf que elle, dans son travail de psychanalyste, elle arrive à sauvegarder quelques-unes des personnes qui sont en traitement chez elle. D'ailleurs, elle ouvre une institut chez elle, dans sa baraque, avec certains de ses patients. Et elle observe les dessins. Elle les fait dessiner en permanence. Et à un moment donné, elle voit dans ses dessins des signes, des événements graphiques qu'elle reconnaît dans l'histoire de l'art. Toute l'histoire de l'art. Des peintures pariétales jusqu'au XIXe siècle. Et c'est quand même étonnant, parce que, a priori, sont des gens qui, depuis enfant, ont été extraits de la société et n'ont jamais vu ce type d'iconographie. Elle va à un colloque à Vienne, elle rencontre Jung, qui regarde ce travail et qui met en place cette théorie de l'archétype visuel. Et là, c'est complètement délirant. C'est-à-dire que, enfin, c'est délirant. Non, c'est fascinant dans le sens le plus direct du terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se rendent compte par étude, donc ils étudient des milliers de dessins, et ils se rendent compte par étude qu'il y aurait un subconscient collectif. Et c'est par ce subconscient collectif qu'on retrouve des signes dessinés à travers l'histoire de l'art. Que ce soit dans les premières peintures pariétales, ou chez Picasso, ou chez Matisse, ou chez Rembrandt. Et on retrouve des signes qui viennent régulièrement ponctuer l'histoire de l'art. Des touches de dessin, des façons de dessiner, etc., etc. D'ailleurs, les dernières réflexions paléontologiques sur les peintures pariétales nous disent que le dessin, les premiers dessins, ne proviennent pas de rituels. Non, c'est juste l'ombre. C'est-à-dire qu'ils ont observé les cavernes, il y a des roches, ils ont positionné, ils ont refait un feu là où il y avait le feu a priori, et ils se sont rendu compte que la roche, elle dessinait une partie du taureau ou du bison ou de je ne sais quoi. C'est complètement incroyable. Et de là, ça se répète. C'est le livre rouge de Jung qui en parle très longuement. Vous l'avez lu? Un gros bouquin avec plein d'iconographie. Donc après, il glose, hein, je veux dire, il y va. Bon, c'est Jung, hein, il ne peut pas s'empêcher. Ça fait, je ne sais plus, 450 pages. Là. Bon. Mais c'est complètement incroyable, parce que là, soudainement, on se rend bien compte que ce qu'on croyait comme étant un exercice du regard, moi en tout cas, ce que je croyais comme étant l'exercice du regard, et je sais de quoi je parle, je suis plasticien, j'arrête pas d'avoir cet exercice du regard, ça fait partie de mon métier, je me rends compte que ce n'est pas vrai. Ça se passe à un autre endroit. Alors que je croyais que ça se passait à un endroit, ça se passe à un autre endroit. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui cette idée que c'est plutôt une image qui nous regarde que nous regardons l'image. D'ailleurs, il suffit de voir le nombre d'heures que la plupart des individus passent sur Facebook à regarder leur propre image. C'est extrêmement signifiant.
Chez nous, je sais pas, l'image reflète ce qu'on est.
Non, moi je pense qu'on est plutôt dans la déformation, en tout cas pour ce que j'observe aujourd'hui dans le monde contemporain, c'est que ça a pris le pouvoir. Comme disait Guy Debord, l'image est à tel degré de capital. Qu'elle en devient un spectacle. On est face à un spectacle. Le spectacle de la guerre, elle n'est plus là, mais elle était là. Le spectacle de l'humanité tout entière, concentrée dans des réseaux sociaux, sur Internet, la virtualisation absolue de tout instant du vécu, c'est quand même assez foudroyant. Les mèmes, enfin, toutes ces conneries, abscons, voilà, un manque de culture absolue sur comment on décrypte une image. Et donc, je suis avec mon gamin à la plage, hop, je me prends en photo, je bouffe des pâtes, je me prends en poteau, je bouffe dans un restaurant, je prends ce que je mange, je me fais des selfies, enfin, c'est l'enfer. On regarde, passez, faites l'expérience, allez au Louvre. Asseyez-vous devant une toile qui vous intéresse, restez 1 heure. C'est du délire. Si vous me trouvez une personne qui reste plus de 5 minutes devant cette même œuvre, faites-moi signe. Ça circule, là, avec des bâtons à selfie, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, et ça se balade comme ça, avec sa gueule, là, puis les toiles qui défilent derrière, voilà, en vidéo, donc voilà, ça passe comme ça. Les gens ne s'arrêtent même plus devant un Fragonard ou devant je ne sais quoi. Enfin, c'est complètement hallucinant. Le seul endroit où s'arrêtent tous ces imbéciles, c'est devant la Joconde, qui est la toile la moins intéressante d'ailleurs du niveau, parce que juste derrière, il y a un Titien. Hein. Enfin, bref, c'est complètement dingue, quoi. On va voir du spectacle. On va pas voir une œuvre d'art. Il y a le Redos de la Méduse, il n'y a personne qui s'arrête devant cette toile gigantesque, qui à l'époque a fait un scandale monumental. Personne ne s'arrête. Ça passe, même les groupes scolaires. Ils passent. Moi, j'adore aller au Louvre juste pour observer ça. Le Louvre, c'est le nouveau Facebook de l'histoire de l'art. C'est une catastrophe. C'est une espèce d'énorme bâtiment construit par Napoléon. Immense! Et en fait, c'est le réseau. C'est du flash. De temps en temps, il y a un artiste qui traîne, qui fait des dessins. Alors lui, forcément, il reste parce qu'il doit dessiner. Il prend le temps. Mais sinon, majoritairement, je crois, c'est avec toi qu'on avait discuté de ça, Blandine, le taux d'arrêt devant une œuvre d'art, c'est 5 secondes, je crois. 4-5 secondes, quoi. C'est un truc de fou, quoi.
Les parcours sont définis en fonction de ça. Ça fait partie de la construction des musées. Aujourd'hui, c'est partout.
Comment est-ce qu'on peut regarder une œuvre d'art? Je pense qu'on pourrait une œuvre d'art certainement pas en restant devant, immobile.
Il faut en faire le tour.
Il faut bouger.
Non, mais bien sûr.
C'est comme ça que j'ai visité l'Égypte. Statue. C'est un guide qui me dit. Il avait raison. C'est pas le mot. Si on ne bouge pas, l'œuvre est morte. Donc, il y a voilà, un regard qui s'exprime à partir du moment où nous, on bouge.
Non, mais ça, c'est
si
évident.
On bouge pas,
bien sûr.
C'est fini. C'est une pierre.
Enfin, c'est déjà une pierre, hein, en général. Ceci dit entre nous. Enfin, oui. Pour moi, les musées, c'est les mouroirs. Hein. Enfin, c'est les cimetières, quoi. Mais si, c'est là aussi où... Enfin, moi, je viens du spectacle vivant, par exemple. J'ai fait beaucoup de théâtre. Et j'aime l'éphémère. J'aime l'éphémère en tant qu'œuvre d'art. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on soustrait l'œuvre au regard. C'est fini, on n'en parle plus. Ça ne devient pas un objet de culte. Je ne vais pas faire du James Coutts à Versailles, à faire des sculptures gonflables et à me remplir les poches d'or, quoi. C'est intéressant quand ça disparaît aussi, une œuvre. Par exemple, le Radeau de la Méduse, là, exposé au Louvre, cette œuvre est en train de disparaître, puisque il a travaillé avec du goudron pour avoir des noirs très noirs. Et en fait, le goudron, tout doucement, est en train de par connexion chimique, est en train de se connecter avec le reste de la peinture. Et en fait, la toile, a priori, dans une vingtaine d'années, elle est morte, elle sera noire, en fait. Et moi, je l'ai vue quand j'étais petit, quand j'avais 7-8 ans, et je la vois aujourd'hui, et j'ai bien vu qu'elle a changé. Et d'ailleurs, regardez les repros. Ils n'arrivent pas à la restaurer, c'est foutu, il faudrait la refaire, en fait. Donc ils savent que cette toile va disparaître. Et ça, c'est génial, c'est magnifique. La disparition d'une image fait partie de l'image.
Ça soulève aussi la problématique de la restauration des œuvres. On cherche à les conserver dans le temps, indéfiniment.
Alors que pour moi, elles devraient disparaître. Elles peuvent disparaître. Ce n'est pas un problème.
Est-ce qu'on leur rajoute de la valeur en les gardant ou au contraire, est-ce qu'on détériore ?
D'ailleurs, aujourd'hui, là-dessus, par exemple, on parlait de mythologie. Que savons-nous de la mythologie ? Nous ne savons de la mythologie que les études qui ont été faites là-dessus, c'est-à-dire ce qu'on nous en rapporte. Que savons-nous de Praxilès, un des plus grands sculpteurs romains, enfin grec, pardon ? On n'en sait quasiment que ce qu'on en rapporte, puisque la quasiment totalité de ses œuvres ont été détruites par les Romains, d'ailleurs. Il reste quelques pièces. En fait, c'est juste une image. On se fait une image. Donc, il faut lire les historiens de l'époque, etc., pour essayer de comprendre ce que faisait ce peintre. Que savons-nous des peintures pariétales ? On connaît quelques sites.